Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous inclinons nos têtes. Et chacun demande au Seigneur de lui parler, de déposer sur son cœur ce qui vient de sa parole. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, ton nom est glorieux, ton nom est tout-puissant, ton nom a écrasé Satan à Golgotha, ton nom fait trembler l'enfer. Quand nous invoquons ton nom, Seigneur, eh bien, il se passe deux choses extraordinaires. Car c'est le seul nom qui nous a été donné d'en haut, par lequel nous avons la victoire, par lequel nous pouvons marcher sur toute la puissance du diable. Merci pour la révélation de ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Nous voulons, après t'avoir adoré, après t'avoir exprimé, Seigneur, nos sentiments par des chants, par des cantiques, nous voulons nous asseoir très humblement et avec crainte et tremblement à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Ce matin, nous voulons manger, Seigneur, ce qui vient de ta part. Ce matin, nos âmes ont soif de ta présence, soif de ta parole. Ce matin, nous voulons, Seigneur, savourer, nous voulons nous délecter de ta parole. Alors, donne-nous d'être dans des bonnes dispositions de cœur, afin qu'alors qu'elle sera proclamée, que cette parole puisse trouver, Seigneur, un écho favorable, un écho positif dans nos cœurs. Merci de bénir également ton serviteur et de lui donner, de le revêtir de ton autorité, Seigneur, de lui donner l'onction dont il a besoin pour pouvoir nourrir ton peuple avec ce qui vient de toi. Merci, Maître. Bénis cette parole et sanctifie-la au nom de Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Bien, nous allons donc continuer avec notre thème de la fois dernière, à savoir l'attente de Dieu pour chacun de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et comme je l'ai souligné la fois dernière, c'est un thème pertinent, puisque nous sommes encore dans le tout début de cette année. Il est donc important que dès le départ, que nous sachions ce que Dieu attend véritablement de nous. En d'autres mots, que nous sachions quelle est son attente, qu'est-ce qu'il attend le plus de chacun de nous. Nous avons donc lu, et nous relisons très rapidement, Proverbe 23, et puis ensuite nous irons dans le livre de Marc, c'est-à-dire l'évangile de Marc. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 23, verset 26, où il nous est dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et puis enfin, dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 14, jusqu'au verset 23, il est dit ceci, « Le Seigneur appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Il insiste là-dessus. Il avait quelque chose d'important à leur communiquer, un enseignement révolutionnaire. Il leur dit, « Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie ou manque de bon sens. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, viennent du cœur et par conséquent rendent l'homme impur. Donne-moi ton cœur. Comme nous l'avons souligné la fois dernière, telle est donc l'attente du Seigneur envers chacun de nous. Et il voudrait que nous répondions favorablement à cette demande, à cette recommandation, à cette injonction. Mais il voudrait que toute notre vie puisse demeurer entre ses mains, et ce pour diverses raisons. L'attente de Dieu par rapport à cette année nouvelle 2020. L'attente de Dieu par rapport à chacun de nous. Voilà la chose la plus importante, c'est-à-dire donner à Dieu notre cœur. Lui donner ce cœur précieux, car il n'y a rien que nous puissions donner à Dieu qui le rejouisse autant que lui donner, que lui confier notre cœur. Et quand nous parlons de notre cœur, nous parlons de notre vie, alléluia. Nous parlons de ces trésors précieux qui est déterminant. Car tout ce que nous sommes, mes amis, tous les gestes que nous posons, toutes les actions que nous posons, les attitudes, tout cela est le reflet de la nature de notre cœur. Vous voyez, mes amis, combien c'est fondamental que vous et moi nous apprenions à donner notre cœur au Seigneur. Et nous avons épinglé la première raison pour laquelle nous devons absolument donner notre cœur au Seigneur. Car c'est la seule manière de pouvoir traverser cette année 2020, mes amis, avec joie, avec force et dans la victoire. C'est la seule manière d'avancer dans cette année, dans la victoire, d'aller de gloire en gloire, de connaître une année pleine de succès et de réussites. Lui donner, lui confier notre cœur. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et ceci est déterminant, mes amis. C'est pourquoi je le soulignais la fois dernière. Il était donc important que nous commencions cette année par ce genre de message, avec un thème aussi pertinent que celui-là. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de lui donner notre cœur? Pourquoi insiste-t-il tant? À travers toute l'Écriture, nous voyons que tout l'accent de Dieu est mis sur la nature du cœur de l'homme. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Et la fois dernière, nous avons examiné, et je continuerai avec cette raison, donc la première raison pour laquelle le Seigneur tient absolument que nous lui confions, que nous lui donnions notre cœur. C'est qu'il voudrait, nous faire ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, il est important que nous comprenions une chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, eh bien, nous portons en nous l'idéal le plus extraordinaire, le plus grand idéal qui soit sur cette terre, à savoir ressembler à Jésus-Christ. Dieu voudrait que nous ressemblions à Christ. Il reste la référence et l'image parfaite. Voyez-vous, lui ressembler. Voilà le but ultime pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Lui ressembler en tout, dans notre être. Lui ressembler dans nos actions, lui ressembler dans nos réactions, lui ressembler en parole, lui ressembler en conduite. En d'autres mots, marcher comme lui a marché. Voilà, mes amis, la chose la plus importante. Car Dieu est plus préoccupé par ce que nous sommes plutôt que par ce que nous avons. Nous pouvons avoir mille et une choses, nous pouvons avoir mille et un talents, mes amis. Mais ce n'est pas ça qui compte. Nous pouvons occuper des postes importants, avoir toutes sortes de responsabilités. Ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu, même si cela est important. Nous pouvons avoir un ministère spirituel formidable, extraordinaire, qui impacte l'humanité. Ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu. C'est que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous puissions lui confier constamment, régulièrement, notre cœur, afin que lui, le divin potier, le modèle, le façonne, et lui donne la forme qui lui convient. C'est-à-dire, faire ressembler le vase que nous sommes au modèle parfait, à savoir Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu. On peut arrêter maintenant? Au fur et à mesure que notre ressemblance à Christ s'affirme, alors là, mes amis, nous découvrons et nous expérimentons notre véritable identité. Alors nous devenons la personne que Dieu voudrait que nous soyons. Ce que nous sommes, encore une fois, vaut plus que tout ce que nous avons. L'être, mes amis, est prioritaire devant Dieu. L'être, avant l'agir. avant l'avoir, l'être, avant toute chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons donc vu comment nous pouvions alors donner l'occasion au Seigneur de nous faire ressembler à lui. Eh bien, les outils que le Seigneur a pour transformer ce cœur rebelle, ce cœur envieux, ce cœur orgueilleux, grandiloquent, ce cœur rongé, gangréné par l'immoralité, par toutes sortes de méchancetés, le seul moyen, mes amis, pour changer, pour transformer totalement, métamorphoser entièrement ce cœur et le faire ressembler à Christ, c'est d'abord et avant tout la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous la prêchons dimanche après dimanche. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous encourage à avoir un contact permanent avec elle. Voilà pourquoi la Bible, mes amis, nous encourage à méditer sa parole, à la manger régulièrement. Cette parole a la capacité, a la vertu de nous transformer, de nous libérer de toute forme d'esclavage. Es-tu esclave de certaines faiblesses de la chair? Es-tu esclave, mes amis, de certaines choses de la chair? Eh bien, le secret de la délivrance se trouve dans sa parole. Apprends à manger cette parole. Apprends à te nourrir de cette parole. Apprends à multiplier des contacts avec cette parole. Et tu verras combien cette parole est puissante. Alléluia. Et gloire à Dieu. Cette parole est puissante. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes alors mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de choses qui nous asservissent. Beaucoup de choses qui nous rendent esclaves, à commencer par le moi, par l'ego. Cet ego qui veut être au centre de l'univers. Mes amis, comment briser cet ego? Comment nous débarrasser de l'orgueil, de l'arrogance, de la hauteur? Comment avoir un cœur qui trouve du plaisir à plaire à Dieu? Eh bien, c'est en recevant régulièrement sa parole, en demeurant dans sa parole, alors petit à petit, tous ces liens et toutes ces chaînes vont tomber. Oh, alléluia. Et enfin, comme nous l'avons vu, il y a la prière. Oui, la prière. Voilà pourquoi nous passons beaucoup de temps dans la prière ici à la Borne, que ce soit lors d'un culte comme celui-ci, lors d'une célébration dominicale comme celle-ci, nous chantons, nous nous réjouissons à sa présence, nous lui exprimons nos sentiments par les chants, par les cantiques, mais aussi, nous louons le Seigneur, alléluia, nous l'adorons. Car lorsque nous entrons dans sa présence, alors, mes amis, nous accomplissons notre raison d'être ici-bas. Lorsque nous entrons dans sa présence, nous pouvons alors réjouir son cœur, car il nous a sauvés pour cela. Il nous a adressé cette vocation de sacrificateur, afin que nous entrions régulièrement dans le Saint des Saints, que nous nous tenions devant le trône sur lequel il est assis, pour le louer, pour l'encenser avec notre louange, avec notre adoration. Plonger nos regards régulièrement dans la présence de Dieu, nous attarder devant sa face. Mes amis, avoir du temps avec le Seigneur, que ce soit ici, que ce soit en semaine, que ce soit chez vous à la maison, que ce soit sur votre lieu de travail, tout cela, mes amis, finit par nous transformer, par nous métamorphoser et par nous faire ressembler à lui et à lui seul. Amen. Voilà comment nous pouvons être transformés. Voilà pourquoi nous devons abandonner notre cœur au Seigneur. Nous devons lui donner notre cœur afin qu'il puisse le transformer, afin qu'il puisse le purifier et nous doter d'affection pure, nous amener à avoir cette capacité d'affectionner les choses d'en haut, les choses qui viennent du ciel, alléluia, et gloire au Seigneur. Oui, nous faire ressembler à lui. Voilà la première raison pour laquelle nous devons absolument lui abandonner notre cœur entre ses mains. Et nous allons continuer, car il y a tant à dire sur cette première raison. Pour ressembler à Christ, il faut que nous abandonnons nos cœurs. Et l'enseignement que le Seigneur nous donne dans Marc 7, mes amis, nous montre une fois de plus combien donc c'est important d'abandonner notre cœur entre les mains du Seigneur. Là, dans le chapitre que nous avons lu, Marc 7, le Seigneur aborde un thème important. Il nous montre, mes amis, l'épingle, la vanité, la folie, la nullité de chercher la purification de notre être intérieur, de chercher la pureté morale ou spirituelle en s'abstenant de certains aliments, voyez-vous. Car aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, vous avez encore des religions qui imposent toutes sortes de restrictions alimentaires, des gens qui croient qu'ils sont purs parce qu'ils mangent pas ceci, parce qu'ils ne consomment pas cela. Rien, mes amis, de ce qui rentre dans la bouche ne souille l'homme, mais plutôt ce qui sort du cœur de l'homme. C'est donc la nature du cœur qui est déterminante. C'est donc l'état de notre cœur qui est déterminant. On peut consommer de tout. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Il appelle la foule, et parmi la foule, il y a ses disciples. Il leur dit, écoutez-moi tous, et comprenez. Écoutez-moi tous. Nous sommes dans un contexte judaïque. Et nous savons tous combien ce peuple était très attaché à la loi de Moïse. Mais avec le temps, ils ont fini par vider, par écrémer cette loi pour se retrouver avec des traditions mortes, des traditions nulles. Ils sont restés attachés à cette observation aveugle, traditionnaliste, de certaines règles alimentaires en ce qui concerne la pureté cultuelle. Et là, le Seigneur, mes amis, interpelle tout le monde. Et là, le Seigneur leur montre ce qui se passe. En disant, il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Ça veut dire, mes amis, que tous les actes que nous posons, notre conduite, nos attitudes, reflètent l'état de notre cœur. Puisque tout vient du cœur, alors vous comprenez pourquoi le Seigneur voudrait que nous apprenions à lui donner notre cœur. Il est le seul qui puisse débarrasser notre cœur de toutes ces choses mauvaises, de la méchanceté, des vols, meurtres, adultères, cupidité, dérèglements, ruses, calomnies, orgueil, blasphème. Toutes ces choses-là, mes amis, ne peuvent pas quitter nos cœurs simplement parce que nous le voulons. Il faut que nous le comprenions bien. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous libérer de la cupidité, de ce désir insatiable qui ronge nos cœurs et qui nous amène à vouloir toujours posséder, alors qu'on en a déjà. On n'est jamais satisfait. On voudrait avoir des maisons à travers toute la République, des appartements gauche à droite, voyez-vous. On pense qu'en possédant davantage, on finira par être heureux. Pas du tout, mes amis. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse rendre l'homme heureux. Le vrai bonheur se trouve dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, combien j'aimerais que ce message soit compris. Car nous vivons dans un pays gangréné par la corruption. Des gens qui essayent de s'enrichir sur le dos des autres. Voyez-vous, qui considèrent la République comme leur ferme. Où ils peuvent aller prendre le chou tout en quantité comme ils le veulent, sans penser aux autres. Mes amis, nous devons partager ce message. Vous pouvez posséder, avoir des appartements à travers toute la ville de Kinshasa et être foncièrement malheureux. Car le bonheur se trouve, non pas dans les biens que le monde offre, non pas dans les expériences que le monde nous offre. Vous pouvez collectionner les femmes comme vous voulez, avoir tout un harem. Vous pouvez collectionner les hommes, les remorquer comme vous voulez, et ne jamais être heureuse ou heureux. C'est simplement satisfaire un cœur insatisfait. Il n'y a rien qui satisfasse le cœur de l'homme en dehors de la présence du Créateur. Gloire à Dieu. Le Seigneur donne un enseignement révolutionnaire. Dans un monde juif, où les gens étaient très attachés à la tradition, où les gens observaient de manière mécanique, comme des automates, toutes ces restrictions culturelles liées à l'alimentation. Les Juifs, en effet, d'après leur façon d'interpréter la loi de Moïse, les règles alimentaires que nous trouvons dans Lévitique chapitre 11, que vous pourriez lire, avaient fini par croire que pour être pur devant Dieu, eh ben, il fallait s'abstenir de consommer telle viande, de consommer telle autre viande. Il fallait s'abstenir de ceci ou de cela. Ils attachaient beaucoup d'importance aux ablutions culturelles. Il fallait se laver avant de manger. Vous vous rappelez de cette histoire où ils furent choqués. Choqués alors. Hors d'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient vu que les disciples du Seigneur mangeaient sans s'être purifiés, entre guillemets. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes pensent qu'ils sont purs aux yeux de Dieu, simplement c'est lavant certaines parties du corps. Rien du tout. C'est là, à l'intérieur. C'est dans le fort intérieur que se trouve la réalité, le péché. Et c'est le péché qui est à la base de toutes ces attitudes formalistes qui poussent les gens à l'orgueil. Quand ils voient quelqu'un manger du porc, ils le regardent avec dédain, mépris, impur, mécréant. Non! Rien de ce qui rentre dans la bouche ne rend l'homme impur. C'est plutôt ce qui sort. Et le Seigneur nous dit, c'est du cœur que viennent toutes ces choses mauvaises qui intoxiquent notre vie, qui intoxiquent nos relations mutuelles. C'est du cœur, mes amis, que viennent les meurtres, les crimes, le vol, la corruption. La corruption se trouve dans le cœur. Vous pouvez organiser des marches contre la corruption. Vous pouvez marcher à travers toute la ville de Kinshasa, être vous-même corrompu jusqu'à la moelle épinière. On ne combat pas la corruption en marchant. Oui, on peut la dénoncer, mais dénoncer simplement ne sert à rien. Prêchez la vérité. Dites aux gens que Jésus seul peut transformer un cœur. Il peut le libérer de la cupidité et amener quelqu'un à se contenter de ce qu'il a. Qu'il ait peu, il est dans la joie. Qu'il ait beaucoup, il est dans la joie. Gloire à Dieu. Manger, ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Et les gens arrivent à une conclusion qu'ils sont saints, qu'ils sont purs. Ne pas saluer telle personne, soi-disant qu'elle serait impure. Il y a quelques années, mon épouse et moi, on avait rencontré un juif orthodoxe. Je l'ai salué, mon épouse qui vient en bonne chrétienne. Voyez-vous, saluez-vous. Lui tend la main, il dit non. Donc à ses yeux, mon épouse était impure. Vous voyez, encore aujourd'hui, c'est ça le problème du formalisme religieux. Ça pousse les gens à l'orgueil. Quand on voit quelqu'un manger un bon steak, de cochon, je ne sais, d'un porc, de porc, impur. Non, c'est ce qui sort du cœur. Un bon steak d'autruche, un bon steak de porc, ou une chauve-souris bien marinée et grillée, ne vous rendront jamais impur. Vous pouvez le consommer avec délice. Mais non, si vous en mangez, je ne vous pousse pas d'aller manger de chauve-souris. Un bon rat grillé pourrait faire une bonne affaire. C'est pas pour autant que vous serez souillé. Voyez-vous? La loi de Moïse interdisait la consommation du porc, du chameau, la viande de chameau, la viande de l'autruche. Et pourtant, c'est une bonne viande, hein. Oui ou non, allez en Afrique du Sud et demandez un bon steak d'autruche, vous verrez comment c'est... Mais, dans les restrictions alimentaires, les Juifs ne pouvaient pas consommer tout ça. Mais au lieu de voir pourquoi l'esprit, ils se sont attachés à la lettre. Et le Seigneur leur dit, non, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, ce qui passe par la bouche qui rend l'homme impur, qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort du cœur. Puisque c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme, qui le rend impur, alors mes amis, nous n'avons pas d'autre choix que de confier nos cœurs au Seigneur, de donner nos cœurs, de placer notre cœur entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse les débarrasser de toutes sortes de choses mauvaises. Alléluia. Voilà la raison, une des raisons majeures pour laquelle le Seigneur nous demande de lui donner notre cœur. Puisque notre cœur est mauvais, nous ne pouvons pas le changer. Nous pouvons aller à l'église autant de fois que nous pouvons. Nous pouvons respecter toutes sortes de traditions religieuses ou autres, mais ce n'est pas ça qui changera. Il n'y a que le Seigneur qui peut transformer un cœur. Il n'y a que lui qui peut nous métamorphoser. Voilà pourquoi il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Alléluia. Et le renouvellement de l'intelligence, eh bien, ne peut avoir lieu que lorsque notre intelligence se nourrit de la pensée de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu. Lorsque nos cœurs, mes amis, s'approchent de Dieu, baignent dans sa présence, alors lui le créateur de toutes choses, lui qui fait toutes choses bonnes en son temps, il va alors se mettre à travailler nos cœurs pour les fortifier, pour les débarrasser de telles souillures, de telle autre impureté, de telle faiblesse, etc. Voilà donc la raison pour laquelle nous devons confier nos cœurs à Dieu. C'est clair? Alors mon frère, n'hésite pas. Quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, prends mon cœur. Je ne sais pas comment la journée va se dérouler. Je ne sais pas ce que le diable a préparé contre moi pour cette journée. Je sais qu'il cherchera par tous les moyens à me mettre les bâtons dans les roues. Il cherchera par tous les moyens à me pousser à désobéir à ta parole. Mais Seigneur, je t'abandonne mon cœur. Travaille-le, change-le, transforme-le et fais-le ressembler à toi et à toi seul. Amen. La deuxième raison, et nous nous arrêterons à la deuxième raison parce qu'il y a tant à dire, nous devons donner notre cœur à Dieu afin que ses promesses deviennent une réalité palpable et tangible dans nos vies. En d'autres mots, les promesses que le Seigneur nous a faites, et lui seul sait combien il y en a, ces promesses qui remplissent toute la Bible, depuis le premier livre de la Bible, la Genèse, jusque où il n'y aurait que de la poésie ou de la prose, on retrouve que ce soit sous forme poétique, que ce soit en prose, mes amis, des promesses que le Seigneur a faites à l'humanité, des promesses que le Seigneur fait à ses enfants. À propos de ses promesses, écoutez ce que Paul, un homme qui a expérimenté tant de promesses dans sa vie, après avoir rencontré le Seigneur, Paul, champion de la foi chrétienne, Paul, mes amis, homme que Dieu a rencontré sur le chemin de Damas, autrefois religieux, autrefois fanatique, intégriste, persécuteur de l'Église, mais que quand il rencontre le Christ, cet homme est il comprend que toutes les promesses qui avaient été faites au peuple de Dieu, même à Israël, le peuple de l'ancienne alliance, ces promesses-là, eh bien, sont appelées à trouver leur accomplissement en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Écoutez ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens chapitre 1er. Je voudrais que nous lisions cela. Versets 19 à 20. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, dont Paul, par Sylvain et par Timothée, ce Jésus-Christ-là n'a pas été oui et non. Il n'y a pas de confusion avec Christ.
Il n'y a pas de duplicité, voyez-vous. Il n'y a pas de clair-obscur, voyez-vous, pas du tout. Avec lui, c'est la lumière. Ce n'est ni oui, ni non, pas du tout. Il n'a pas été oui ou non, mais en lui, il n'y a que oui. Et la Bible continue. Toutes les promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut m'afficher le texte? Toutes celles de Dieu sont ce oui en lui. En qui? En qui? Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Est-ce que nous lisons ça? Ce qui est intégré? Et la Bible continue. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Toutes les promesses de Dieu sont oui dans une personne, non pas dans une religion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu, nous n'avons pas à courir après une religion. Nous n'avons pas à courir après un homme, quel que soit son charisme, quel que soit son appel. Les promesses de Dieu sont oui dans une personne. Cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Alors quand nous abandonnons nos cœurs à Jésus, vous avez compris la suite. Quand nous abandonnons nos cœurs à Jésus, alors nous pouvons nous attendre à l'accomplissement de sa parole, parce que c'est en lui que tout ce que Dieu a proclamé comme parole, depuis le jardin d'Éden, et à travers toute l'histoire d'Israël, jusque dans le livre de l'Apocalypse, tout ce que Dieu a fait, a dit, a promis, tout cela sont oui et amen dans une personne, notre Jésus. Oh, Jésus est le oui de Dieu. Cherches-tu l'approbation de Dieu? Cherches-tu que Dieu dise oui? Tu veux être béni? Il dit oui. Tu veux être délivré? Il dit oui. Tu veux être sauvé? Il dit oui. Tu veux connaître l'élévation? Il dit oui. Tu veux être guéri? Il dit oui, mais ce oui-là, dans une personne, Jésus de Nazareth, acclamons-le. Oh, alléluia. Alors vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ne donne pas ton cœur à un homme, à un évêque ou archevêque. Non. Tu passeras à côté des bénédictions de Dieu. Ne donne pas ton cœur à une religion. Il y en a qui meurent pour leur religion. Non. Le oui de Dieu n'est pas dans une religion. Le oui de Dieu se trouve dans une personne. Celle qui a porté nos fardeaux à Golgotha. Celle qui a donné sa vie à la croix. Voilà le oui de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, dis à Dieu merci pour Jésus, car il est ton oui. Et comme Jésus est en moi, alors ta parole devient oui. Il est le oui. Il est l'amen. Oh, gloire à Dieu. Tout cela nous parle de la fidélité de Dieu, mais également de la véracité de ses promesses. À travers toute la Bible, essayez de vous imposer cet exercice, d'aller trouver toutes les promesses que Dieu a faites. Et puis à chaque fois de mettre à côté oui en Jésus-Christ. Et vous allez voir. Dieu se révèle comme étant l'Éternel qui t'est guéri. Eh bien, c'est en Jésus-Christ que cette parole devient oui. Donc, as-tu besoin de guérison? Arrête d'aller courir, arrête de courir après un bishop, un trishop, quadrishop, quincachop. Arrête de courir après un homme. Oui, un homme n'est qu'un outil. Mais c'est en Jésus que cette promesse, je suis l'Éternel qui te guérit, devient oui. Je te guéris. Il est Adonai Yireh,
ou Jireh,
c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. Eh bien, Jésus-Christ, il pourvoit nos besoins. Veux-tu voir tes besoins être rencontrés? Veux-tu avoir un Dieu qui pourvoit tous tes besoins, quels qu'ils soient? Alors ne cours pas après une religion. Ne cherche pas à adhérer à une croyance, ni à une philosophie. Mais fais tout pour demeurer dans une personne. Car en Jésus-Christ, alors Dieu se révèle comme étant Adonai Yireh, celui qui voit et qui pourvoit. Gloire à Dieu. Il est l'Éternel qui pardonne nos péchés. Eh bien, Jésus, en Jésus, cette parole devient
oui.
Alors as-tu besoin de pardon? Ne tourne pas vers Marie. Ne te tourne pas vers Joseph. Ne te tourne pas vers je ne sais quel saint. C'est en Jésus que cette parole, je suis l'Éternel qui te pardonne, devient et
amen.
Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai
de rien.
Eh oui, quand tu fais partie du troupeau de Dieu, quand Dieu est ton berger, tu n'as rien à craindre. Aucun loup ne peut te menacer. Tu n'as rien à craindre. Tous ces caïmans des ténèbres, toutes ces hyènes des ténèbres ne peuvent rien contre toi parce que l'Éternel est ton berger. Non seulement il te protège, non seulement il combat pour toi, mais la Bible d'ajouter, je ne manquerai. Eh bien, cette parole est oui en qui?
En Jésus.
Gloire à Dieu. Je suis l'Éternel qui bénit ton départ, l'Éternel qui bénit ton arrivée. C'est-à-dire, ton arrivée sera bénie, ton départ sera béni. Eh bien, cette parole est oui en
Jésus.
Tu veux que ton arrivée soit bénie?
Oui.
Eh bien, le oui se trouve en
Jésus.
Donne-moi ton cœur, ma fille. Donne-moi ton cœur, mon fils. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Eh oui, il veut que tu sois en haut, jamais en bas pour être écrasé par tous ces puissants démoniaques. Oh, alléluia. Il veut que tu sois à la tête. Quand les démons te voient, ils tremblent. Eh bien, cette parole devient réalité. Devient oui en... Il est au commencement. Il est à la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Son nom est
Jésus.
Vous comprenez pourquoi nous devons avoir constamment le nom de Jésus dans la bouche, le proclamer dans la puissance du Saint-Esprit. Tant de promesses. Je n'ai pas le temps. Oui, en Jésus. Oui, en Jésus. Vous voyez pourquoi, mes amis, le Seigneur nous demande que nous lui donnions notre cœur. C'est pour que toutes les promesses qu'il nous a faites finissent par devenir réalité palpable et tangible. Car les promesses de Dieu sont oui, amen, en Jésus-Christ. Et quand nous lui confions nos cœurs, quand nous lui donnons notre cœur, alors lui, mes amis, va le préparer. Il va créer une atmosphère, un climat qui permettra à toute promesse reçue de finir par devenir une réalité tangible. Il n'y a que lui qui peut le faire. Lui et lui seul. Oui, ces réalités, plutôt, ces promesses sont appelées à être des réalités vivantes dans notre vie de tous les jours. Ces promesses sont des paroles vivantes, des paroles qui sont esprit et vie. Voyez-vous, susceptibles, mes amis, de devenir des réalités extraordinaires dans chacune de notre vie. Oui, pour que ces promesses soient vécues, expérimentées par chacun de nous, il y a donc un préalable. Le préalable, c'est lequel il faut que nous donnions notre cœur à
Jésus-Christ.
Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je terminerai par cette parole qui va dans le même sens, qui nous montre combien, mes amis, l'état de notre cœur est déterminant quant à l'accomplissement, quant à l'expérimentation des promesses de Dieu. Dans Luc chapitre 8, le Seigneur parle de la parabole du semeur. Le semeur qui sort pour semer et qui jette la semence, et cette semence va tomber sur différents terrains. Et le terrain qui nous intéresse, et l'explication que le Seigneur donne, c'est le verset 15 de Luc 8. Il explique cette partie de la parabole du semeur en disant, nous lisons, « Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Comment ? Avec un cœur bon et honnête, la retiennent et enfin portent du fruit la persévérance. » C'est-à-dire ceux qui ont le cœur bon et honnête. Non seulement ils reçoivent cette parole dite, prononcée, proclamée, c'est-à-dire la promesse, mais ce cœur retiennent cette parole, non pas par leurs propres efforts, mais retiennent ces paroles parce que leur cœur se trouve entre les mains du Seigneur. Et en retenant cette parole, eh bien, cette parole finit par devenir une réalité. C'est ça le fruit. On reçoit une promesse. Le Seigneur te dit, je vais t'ouvrir cette porte. Et tu te mets à prier. Tu attends de manière dynamique, en abandonnant ton cœur entre les mains du Seigneur. Eh bien, le moment venu, cette parole finit par devenir une réalité. C'est ça le fruit. C'est ça le fruit. Chaque parole est comme une semence, mais alors une semence vivante, n'est-ce pas? Et lorsque nous la recevons dans un cœur malléable, fertile, meuble, dans un sol, allais-je dire, fertile, eh bien, dans un cœur qui est entre les mains du Seigneur, parce qu'il n'y a pas que l'état du terrain, mais pour que la semence puisse germer et finir par devenir une plante qui porte du fruit, il faut non seulement voir un bon sol, mais il faut aussi que le ciel envoie la pluie. Or, quand nos cœurs sont entre ses mains, mais celui qui envoie la pluie, oui ou non? Voilà pourquoi je parlais des conditions. Il va créer des conditions pour que cette parole, aussitôt qu'elle sera reçue, puisse trouver des conditions agréables pour elle, des conditions qui lui permettront de pouvoir porter du fruit. Voilà comment nous pouvons accomplir, mes amis, la parole de Dieu dans nos vies. Voilà comment nous pouvons expérimenter. Dieu, t'a-t-il fait une promesse que tu attends depuis belle lurette? Tu ne vois pas l'accomplissement venir. Tu te mets à douter. Tu te dis, est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé? Alors que tu avais toutes les raisons de croire qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui t'avait donné cette parole. Mais oui, il est derrière sa parole. C'est peut-être toi qui n'as pas remis ce cœur entre ses mains, afin qu'il puisse préparer ses cœurs, le mettre dans des conditions qui permettent à sa parole de devenir une réalité palpable. Mes amis, pour terminer, le Seigneur voudrait que nous lui donnions notre cœur, non seulement pour qu'il les transforme, qu'il nous fasse ressembler à son Fils, non seulement pour le débarrasser de toutes sortes de choses, mais il veut que nous apprenions à lui remettre notre cœur pour qu'il le rende capable de recevoir sa promesse, mais aussi de vivre son expérimentation, c'est-à-dire l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Puisqu'il en est ainsi, je vous prie alors de vous mettre debout. Et je voudrais donner l'occasion à chacun de nous de pouvoir donner son cœur au Seigneur. Tu te mets debout devant lui, Dieu seul sait, et toi seul sais quel est l'état de ton cœur. C'est peut-être un cœur qui est rongé par l'incrédulité. Tu ne vas pas par toi-même, par tes propres efforts, même par le jeûne, mes amis. car on peut jeûner simplement pour satisfaire le moi et avoir aussi un argument à balancer aux gens. À chaque fois qu'ils parleront de jeûne, toi aussi tu diras, ah oui, hein, moi j'ai jeûné 6 jours, sans que cela puisse avoir un impact quel qu'il soit. Alors, puisqu'il en est ainsi, commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te confie mon cœur. Tu vois les choses desquelles je suis esclave. Tu vois, Seigneur, tout cela, ce cœur avec ses mauvaises pensées, avec ses choses coupables, ce cœur envieux, ce cœur cupide, ce cœur rempli de déshonneur, ce cœur qui calomnie, ce cœur méchant, ce cœur conflictuel, ce cœur qui trouve du plaisir à faire du mal aux autres. Seigneur, ce cœur, je te le donne. Prends-le, Seigneur, que tu puisses débarrasser mon cœur de ces choses mauvaises. Et que tu crées des conditions agréables qui permettent, Seigneur, qui permettent au Dieu, à mon cœur, d'expérimenter ta parole, d'expérimenter tes promesses. Merci, notre Père et notre Dieu. C'est devant toi et toi seul que nous nous tenons, en réponse à ton appel, ô Dieu, de te confier nos cœurs, puisque pour que tu les travailles, pour que tu les débarrasses, Seigneur, de toutes ces impuretés, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la corruption, ô Dieu, de la cupidité, de la convoitise, du regard envieux. Seigneur, débarrasse nos cœurs de ces choses, de la méchanceté, de l'incrédulité. Seigneur, lave nos cœurs dans le sang que tu as versé à la croix. Ô Dieu, façonne nos cœurs. Modèle-les, rends-les capables d'expérimenter l'accomplissement de tes promesses, car toutes les promesses de Dieu sont oui, amen, en toi Jésus-Christ. Merci d'entendre notre prière et d'accueillir et de recevoir, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs. Oui, nous te les abandonnons. Merci Jésus. Merci Seigneur.